Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un livre qui aurait pu s'appeler « Une vie » ou bien « D'autres vies que la mienne », mais ce sont des titres qui ont déjà été pris. « L'éternel fiancé », c'est celui, titre du bouleversant, drôle, fantaisiste, intelligent et d'une grande grâce, nouveau roman d'Agnès de Sarthe, paru il y a un mois aux éditions de l'Olivier. Bonjour Agnès de Sarthe.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Bienvenue sur France Musique.
Merci.
Le rapport au temps, à la mémoire, à l'enfance, la famille, le deuil et la musique. Tout cela traverse ces 250 pages de ce livre en lice pour le Goncourt et pour le Renaudot. D'abord Agnès de Sarthe, depuis un mois que le livre est lu, que ses lecteurs vous en parlent lors des signatures, dans les librairies. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous émeut peut-être dans l'écho, la résonance qu'un livre comme celui-ci peut avoir dans d'autres vies que la
oui,
vôtre?
Oui. C'est une question qu'on m'a encore jamais posée et que moi-même je ne me suis pas posée, mais en fait j'ai remarqué effectivement que sur ce livre, peut-être plus que sur d'autres, les réactions des lecteurs me surprenaient, et en particulier l'émotion qu'il disait avoir ressenti. Alors c'est pas que j'ai pas été moi-même émue en écrivant ce livre, mais j'avais l'impression que c'était tellement personnel et marginal que personne n'allait pouvoir s'y reconnaître ou s'identifier ou partager. Et en fait, c'est comme bien souvent, c'est tout le contraire. En fait, plus on creuse en soi, plus on atteint l'autre. Mais c'est un mystère.
À chaque parution, à chaque sortie, est-ce qu'on se sent délivré du livre ou est-ce qu'il y a une forme d'appropriation qui peut gêner et d'assimilation entre vous et le personnage, en l'occurrence cette femme dont on traverse des moments de la vie, de la petite enfance à l'âge mûr?
On se sent... En fait, c'est un mélange assez étrange. Moi, je suis surtout contente d'arriver au bout de l'écriture. J'ai jamais l'impression que je vais réussir à terminer un livre. Donc, c'est ça ma grande satisfaction. D'une certaine manière, une fois qu'il sort, je suis encore dans le soulagement de me dire « Ah, c'est incroyable, j'ai réussi à écrire un livre. » Je m'en remets jamais, même après 30 ans de carrière, si on peut appeler ça comme ça. Je suis toujours impressionnée que je puisse arriver au bout. Et ensuite, par rapport à l'identification possible entre moi et le personnage, alors qu'en plus pour ce livre j'ai dit que j'avais utilisé des matériaux autobiographiques, elle n'a pas lieu. Et ça aussi c'est un mystère. Même si il se trouve que ça n'est pas mon histoire, ça n'est pas ma vie, etc. Mais j'ai utilisé quand même des éléments.
L'écorce, vous dites.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'utilise les décors oui, les décors, certaines situations, mais je les vide des personnages qui étaient là à l'origine et je les remplace par mes personnages. Donc c'est un peu comme si j'avais fait une maison de poupée, si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais j'ai conservé beaucoup de choses, mais il y a pas de gêne, il n'y a pas d'indécence, il n'y a pas d'impudeur parce que tout a été codé.
Et dans cette maison de poupée, dans ce décor, il y a Bach, il y a Brahms, il y a une barcarolle, un euphonium, un orchestre d'école. Votre livre, L'éternel fiancé, est traversé par la musique, mais il y a d'abord ce quatuor en mi bémol majeur, symbole de l'harmonie d'une famille musicienne amateur dont les liens vont se dissoudre. Et ce quatuor, il est signé Fanny Mendelssohn Henzel. Le début de ce quatuor de Fanny Mendelssohn Henzel est ici interprété par l'ensemble Nash, une musique qu'on retrouve à plusieurs reprises dans ce livre, Un éternel fiancé d'Agnès de Sarthe, qui veut bien d'ailleurs nous en lire un petit extrait où il est question de cette musique.
J'ai pensé à notre quatuor amateur d'autrefois, avec mon père, Lise et Dora. Je me suis rappelé la respiration profonde et lente que nous faisait prendre Lise avant d'attaquer les premières notes du quatuor en mi bémol. Le miracle de notre départ en chœur. Violon 1, violon 2, alto et violoncelle à la même milliseconde, comme si Lise, Dora, mon père et moi avions constitué un organisme unique. La flèche décochée par Fanny Hensel, 150 ans plus tôt, nous atteignait tous les quatre au même instant. Tuait nos individualités et nous faisait renaître dans un seul corps, capable, avec ses quatre voix impeccablement synchronisées, d'articuler la première phrase découpée en trois segments, comme un très lent « Il était une fois ». Puis, après un soupir, le violon seul de mon père entonnait le chant, presque aussitôt rejoint par le mien, l'alto de Lise et, pour finir, le violoncelle de Dora. Il s'agissait alors pour chacun de nous de déposer une deuxième mélodie, comme une fine pellicule sur la première, puis une troisième et ainsi de suite, à peine décalée, afin de créer une transparence.
Extrait d'un L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe est lu par Agnès de Sarthe. Pourquoi vous avez choisi ce quatuor peu connu de Fanny Mendelssohn comme image, comme symbole d'une union familiale avec cette famille modeste dont les destins vont se séparer, les liens se disloquer?
Ça c'est le miracle de France Musique, c'est tout simple, ma muse. J'étais sur la route en train de conduire et la radio était allumée et j'ai entendu ce quatuor que je ne connaissais pas. Et je ne connaissais pas même l'existence de cette compositrice et j'ai été saisie. C'était une bonne chose qu'il y ait eu un bas-côté sur cette route de campagne parce que je me suis arrêtée et j'ai écouté... en étant totalement bouleversée. Et j'avais commencé l'écriture du livre à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était comme ici, on est habitué aux musiques de films, on n'est pas habitué aux musiques de livres. Ben voilà, je me suis dit, oh, c'est c'est ma musique de livre. Et ensuite, j'ai acheté le disque par le quatuor Eben parce que c'est une interprétation que j'avais entendue et qu'elle était absolument stupéfiante. Et je l'ai écouté sans cesse durant l'écriture et parfois quand il y avait une scène particulièrement difficile à écrire ou qui nécessitait une certaine forme d'énergie, ben j'écoutais et j'y allais. Voilà.
Fanny Mendelssohn Hensel, qui elle-même n'a guère pu sortir de sa condition de sœur d'eux, de femme d'eux. La narratrice de votre livre, elle évoque aussi cette condition des mères, des grand-mères, des arrière-grand-mères. Que faisaient-elles, s'interroge-t-elle, quand elles étaient tristes? Il y a aussi un écho entre Fanny Mendelssohn et ça qui traverse le livre.
Bien sûr, parce que ce qui était, et je vous remercie de le dire, ce qui était absolument bouleversant dans cette écoute, c'était à la fois que je découvrais une musique qui m'impressionnait, qui m'émouvait, qui m'inspirait, et que j'ai tout de suite imaginé l'existence de cette femme qui était un génie et qui n'avait aucun espace pour exprimer ce génie à part le salon de sa maison. Et encore, elle avait de la chance, son mari n'était pas un salopard, ce qu'il aurait pu être, et donc il l'encourageait même. Mais enfin, c'était dans la limite de ce que pouvait se permettre une femme. Et donc oui, ça entrait en résonance avec cette question que pose la narratrice sur sa mère, sa grand-mère, ses aïeules, les femmes qui nous ont précédées et qui n'avaient pas la parole, qui auraient été bien surprises que qui ce soit leur demande cette question qui nous paraît si ordinaire à nous. Ça va? Ça aurait été voilà, un séisme pratiquement.
Alors, on va quand même vous m'arrêter si j'en dis trop. L'éternel fiancé du titre, il s'appelle Étienne. C'est le personnage principal, donc l'héroïne qu'il rencontre à l'âge de 4 ans au concert de Noël. On est dans les premières pages, hein, à la mairie, dans la salle des mariages. Et le petit garçon lui dit « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds ». La petite fille lui répond « Je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers ». Et tout au long de sa vie, cette femme va croiser à nouveau Étienne, devenu adolescent, puis jeune homme, puis homme. Son amant de toujours, se dit-elle, et elle se demande toute sa vie qu'est-ce qui se serait passé si elle avait dit oui, si elle avait dit je t'aime, et si, comme en musique, elle avait pu reprendre dès le début. Dans ce roman, Agnès de Sarthe, il est question de ce rapport au temps, et du rapport au temps dans la musique, avec cette possibilité de reprendre, de se corriger, de prendre quelques mesures avant.
Oui, et c'était... j'ai passé beaucoup de temps à m'interroger sur ce que me faisait la musique, parce que la musique me fait énormément d'effets. Et il n'y avait pas seulement la beauté, il y avait aussi ce rapport au temps, mais qui est double, en vérité, parce qu'effectivement, quand on pratique la musique, si on a raté, on peut reprendre, travailler et faire mieux, autant de fois qu'on le veut, mais enfin, jusqu'au jour du concert. Et le concert, là, il n'y a qu'une fois. Et là, ça ressemble à la vie, c'est-à-dire, il n'y a qu'une fois. Et c'est maintenant ou jamais, et si on rate, c'est tant pis. Et il y a aussi cette impression que j'ai avec la musique, et j'en parle aussi à un moment, je crois que c'est peut-être la narratrice, ou je sais plus, un autre personnage qui en parle, qui dit que la musique, c'est beau, ça s'arrête pas d'être beau, et on peut pas l'arrêter pour se dire « Ah, c'est beau !» Ce qui est un peu redondant comme manière de dire, mais que ça file, et que ça file comme le temps, que ça file comme une vie. Donc il y a ce paradoxe dans la musique, qui est qu'à la fois on peut reprendre, mais la beauté elle-même se situe sur l'axe du temps. Pas comme la contemplation, par exemple, d'un tableau. Non, ça file.
Il y a plusieurs musiques. Vous l'avez dit, Fanny Mendelssohn et ce quatuor, c'est l'une des musiques. C'est la musique de votre livre. Et puis il y en a d'autres, notamment celle-ci. On l'écoute quelques instants et on revient juste après. Je rêve de l'amour de façon très abstraite, la plupart du temps en écoutant de la musique. Les montées chromatiques et les modulations me font de l'effet, les os de mon crâne s'écartent, mon sternum se soulève, j'ai le souffle court et les paupières brûlantes. Mon amant s'appelle Jean-Sébastien Bach. Quand devant les salles de physique, Martin s'est penché vers Agar en jetant un bref regard sur moi, j'ai ressenti quelque chose qui m'a évoqué un certain passage du concerto pour hautbois et violon aux deux tiers de l'allegro. J'ai détourné les yeux, satisfaite. Thank you. extrait du concerto pour au bois et violon de Jean-Sébastien Bach, ici avec Isaac Perlman et Restil et l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Agnès de Sarthe est notre invitée, l'éternelle fiancée. Alors on se fait plaisir, on lit des petits extraits ici de ce magnifique roman paru aux éditions de l'Olivier. Là, ça correspondait à peu près hein, entre la musique et ce que vous évoquiez. Trois parties dans ce livre, comme un concerto, une sonate, en tout cas la plupart, un rythme, un souffle, une écriture qui évolue aussi au fur et à mesure de la vie de cette femme. Votre personnage, donc, écrire, est-ce une musique ou est-ce que c'est un peu cliché de dire ça ?
Ah ben non, c'est pas du tout cliché, et surtout il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est central dans l'écriture, le son, le rythme, le tempo. Ce que disait très bien d'ailleurs Virginia Woolf bien avant moi, en littérature le rythme est tout, disait-elle, et je suis bien d'accord. Et c'est pas seulement le rythme, comment se déroule l'histoire, etc. C'est vraiment au mot près. Et moi je trouve ça extrêmement précieux, mais je remarque que pour certaines personnes, ça n'a pas de la moindre saveur. Donc c'est pas du tout une évidence ce que vous venez de dire. Ça l'est pour certaines personnes, comme moi par exemple. Je veux que ça sonne, je veux qu'on entende la langue, et je veux que quand on lise à voix haute, ce soit agréable à lire aussi.
Mais vous écrivez à voix haute ?
Non, mais enfin c'est tout comme parce que je prononce chaque mot, donc j'entends ce que je fais. Oui, oui, quand même, oui.
Agnès de Sarthe, dans les remerciements, dernière page, vous pensez d'abord à votre professeur de musique au lycée, elle s'appelait Annick Chartreux, qui, écrivez-vous, a changé votre vie et celle d'un si grand nombre de personnes que l'on peut sans exagérer la qualifier de fée. Comment a-t-elle changé votre vie?
Ah ben, Annick Chartreux, qui est une personne extraordinaire, qui était professeur au collège, au lycée où je suis restée 7 ans de ma vie. Elle est aussi compositrice, elle est aussi pianiste, mais il se trouvait qu'elle était une pédagogue exceptionnelle. Et bien que nous l'ayons côtoyée 1 heure par semaine et pas plus, hein, c'est ça les cours de musique quand on n'est pas en spécialité ou je sais pas quoi, c'est pas grand chose. Et bien, elle nous a ouvert sur la musique, sur la pratique musicale, sur l'exigence, sur la joie surtout de la musique, et en particulier grâce à l'orchestre qu'elle dirigeait, et qui était un orchestre absolument totalement accueillant. Vous pouviez jouer de n'importe quel instrument, avoir n'importe quel niveau, c'était pas un problème. Et elle adaptait ses partitions et les arrangements pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Et ça a créé des vocations.
Comme dans votre livre, oui. Hein, l'orchestre du lycée du livre, oui, ressemble voilà. Beaucoup à ce que vous décrivez, oui. Avec cette professeure qui écrit même des parties de percussion qu'on joue avec un peigne.
Non, mais c'est mes propres blagues sur les instruments de musique. C'est que il y a certains guiro qui ressemblent vraiment à des peignes et des râpes à fromage. C'est bon, l'objet original ne ressemble pas à ça, mais on peut en trouver certains qui pourraient vraiment être utiles dans une cuisine ou dans une salle de bain. Mais enfin, je ne dis pas du mal de cet instrument de musique, mais oui, donc c'était très important je voulais absolument évoquer ces années passées avec cette pédagogue, parce que c'est très rare et on ne dit pas assez à quel point les professeurs, et en particulier en musique, sont des personnes décisives.
Vous évoquez aussi votre professeur de flûte et l'orchestre d'harmonie de votre village. Vous êtes donc membre d'un orchestre d'harmonie, Agnès de Sarthe, vous jouez de la flûte. Que vous apporte la pratique de l'orchestre ?
C'est la vraie musique en vérité, parce que même si avec mon professeur de quand j'étais petite, Marianne Lampel, qui est une merveilleuse flûtiste, j'ai joué avec grand bonheur, le fait de jouer ensemble, on a l'impression qu'on fabrique, on est la fabrique de la musique avec tout le monde, et on n'existe plus en tant que soi. On est tous les instruments et on est traversé par tous les sons. Et ça, c'est une jouissance extraordinaire. Et puis, il y a aussi ce fait qu'on doit être ensemble, à la fois accordé et en rythme ensemble. Et ça, c'est une sensation extraordinaire et irremplaçable.
Après le quatuor à cordes de la famille de l'éternelle fiancée qu'on évoquait tout à l'heure, Agnès de Sarthe, voici un quatuor vocal, 4 membres d'une famille. Et cette famille, c'est la vôtre.
Ah.
«
Night and Day, Cole Porter, avec les voix de Laurent Daoury, votre frère, Nathalie Dessay, votre belle-sœur, Tom et Neyma Daoury, vos neveux et nièces, Agnès de Sartre. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez votre famille chanter comme ça?
Je les adore individuellement et en tant que personne, donc c'est toujours très touchant. Et en même temps, c'est très naturel. Ce qui peut paraître un peu étrange, parfois les gens disent « Oh là là, mais ça doit être incroyable d'être la belle-sœur de Nathalie Dessay. » Enfin, moi, j'ai dit « Non, moi je la connais depuis 35 ans, depuis 40, on s'est toujours connus, on était presque des petites bonnes femmes, ouais, des jeunes filles. Donc ils ont toujours été là, elle a toujours chanté, mon frère elle a toujours chanté. On fait ça comme, c'est comme si mes parents avaient eu un magasin de chaussures et qu'on me demandait « Et alors, les mocassins ?» Non, c'est comme, ces gens chantent, ils chantent dans leur vie, ils chantent tout le temps. Et c'est vrai que leur voix me bouleverse. Alors chacune a sa manière, mais on a quelque chose de particulier avec la voix dans cette famille. Je ne sais pas ce que c'est, mais
vous chantez, vous aussi?
Oui, et il y a, je sais pas, on a un sortilège. Peut-être que Hans Christian Andersen en parlerait mieux que moi, mais oui, il y a quelque chose avec la voix.
Tiens, à propos de contes, vous travaillez sur des contes musicaux pour Radio France, avec le chœur de Radio France. Il y aura plusieurs concerts ici cette saison, et notamment avec un certain Léonard de Sarthe. Décidément, que de famille. C'est l'un de vos fils, musicien professionnel, compositeur. C'est une source de joie, de fierté d'avoir un fils qui devient musicien.
C'est ce qui arrive quand vous embêtez plus vos enfants pour qu'ils fassent leur musique que pour qu'ils fassent leurs devoirs. Je n'ai que ce que je mérite. J'ai beaucoup embêté mes enfants avec la musique et maintenant, voilà le résultat, je me retrouve avec un compositeur pour fils, mais c'est extraordinaire. On travaille beaucoup ensemble, moi ça fait des années que je travaille. En fait, je suis son employé. Ça a commencé comme ça, parce que j'écrivais des paroles de chansons quand il écrivait des chansons. Et puis en fait, on a découvert qu'on s'entendait très très bien dans le travail, ce qui n'est pas évident. On peut pas forcément travailler avec des membres de sa famille, c'est pas forcément souhaitable. Mais là, ça l'était. Et il a une compréhension de mon travail, et je pense qu'avoir une compréhension du sien, qui font que ça va très vite. Et ça se passe très bien. Donc, pourquoi se priver? C'est un peu comme une famille de forains, en fait. Tout le monde fait un peu de tout. On s'entraide et puis on dit, tiens, tu peux me faire une musique? Oui, tu peux me faire des paroles? Voilà. Et je voudrais écrire un opéra? Oui, pas de problème, je te fais un livret. Mais ça se paraît bizarre, mais en fait, c'est une pratique comme une autre. C'est un artisanat qu'on partage.
Texte inspiré de La Petite Sirène, ce sera le 18 janvier au studio 104 avec le chœur de Radio France, et puis le 31 mai là avec la musique de Léonard de Sarthe, toujours le chœur de Radio France, donc en mai. Le temps file, Agnès de Sarthe, on ne peut pas revenir en arrière, c'est ce que dit le livre, on ne peut pas revenir à 8h30 pour refaire l'interview et évoquer des choses qu'on n'a pas évoquées. En tout cas, L'éternel fiancé est un roman bouleversant et merveilleux sur une vie, un chemin de halage où tout le long de la route on fait son deuil d'autres vies possibles. Merci d'être venu ce matin sur France Musique. On va se quitter avec quelques notes de Brahms, une ballade qui est évoquée dans le livre, interprétée par Arturo Benedetti Michelangeli. Pourquoi lui ?
Alors parfois, il arrive que la première version qu'on entende soit la bonne et vous marque à vie. Bon, quand en plus c'est un musicien de cette stature, c'est pas étonnant. Je suis bien tombée, on va dire.
Voilà, quelques mesures seulement, bah oui, de cette ballade opus 10 en ré mineur de Johannes Brahms avec Arturo Benedetti Michelangeli. Une musique qui est dans la bande originale de L'éternel fiancé d'Agnès de Sarthe, notre invité ce matin. Demain, nous serons avec le ténor Stanislas de Barberac. Au générique de Musique Matin, il y avait Stéphane Poitevin, U2, Diego Aclopès, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu il y a une heure, la voix mystère, c'était celle de Jean-Loup Dabadi. Émilie Munera, Rodolphe Brumier sont là. Vous savez que Agnès de Sarthe vous écoute tous les jours dans sa cuisine religieusement.
Oh là, alors là on est très touchés. Vous ne pouvez pas nous faire plus plaisir pour un lundi matin un peu plus vieux. Là franchement ça y est, on a le sourire.
Voilà, le soleil.
On est heureux, merci beaucoup.
On lui laisse le temps de rentrer chez elle et comme ça elle pourra écouter.
Elle habite un peu loin je crois, en Normandie.
Sur le trajet.
Si on se dépêche à 10h20, on peut écouter Furtwängler dans la voiture. Parfait.
Allez, à demain.
À demain.